La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La compagnie des auteurs s'élance aujourd'hui dans un quatrième et dernier épisode consacré à Honoré de Balzac, dont je rappelle qu'il est né en 1799 et mort en 1850. Après la biographie lundi, les constantes réinventions de son être mardi et la question de l'argent hier, nous avons choisi de parler aujourd'hui de son influence et de sa postérité, lui qui a été célébré avec plus ou moins de conviction au cours des 16 décennies et même un peu plus qui ont suivi sa mort. Parmi ceux qui l'ont érigé en référence, on trouve par exemple Paul Claudel.
Oh, j'ai beaucoup lu Balzac avec passion quand j'étais tout jeune homme, hein, quand j'avais 15 ou 16 ans, n'est-ce pas? Balzac était ce qu'était Homère pour les anciens Grecs.
Mais nous verrons également qu'on ne peut pas parler d'unanimité à son propos. Nous le verrons avec deux invités. À 15h35, nous rejoindra Aline Murat-Brunel, elle est professeure des universités, auteure de Balzac réinventé chez Pierre Michon, Jean Echenoz ou Régis Geoffrey, un article du dernier numéro de l'année balzacienne. Et en première partie, Christophe Prado, écrivain et professeur de littérature à l'université Paris-Sorbonne. Il nous parlera de la manière dont a été reçu et compris Balzac en son temps et jusqu'au milieu du XXe siècle, ainsi que dans ses rapports avec certains de ses contemporains. Et comme il est spécialiste des romanciers cycliques, parmi lesquels on trouve Jean Giono, nous ne résistons pas à l'envie de diffuser une longue archive de l'auteur du Hussard sur le toit parlant de Balzac.
Je vais te faire un aveu, je n'aime pas Balzac. J'ai fait, très honnêtement, de grands efforts pour lire Balzac, efforts que je renouvelle toutes les années. Il y a tout à l'heure 40 ans que je relis Balzac toutes les années. Et toutes les fois je me dis, oh mon Dieu que c'est mal écrit, oh mon Dieu que ça signifie rien, oh mon Dieu que c'est mauvais. Chaque fois. Alors que tout à l'heure je te parlais de cette prodigieuse abondance de Victor Hugo au début de L'Homme qui rit, je te parle maintenant de l'abondance mesquine de Balzac.
Vous parlez de...
Oui. Balzac commence par te décrire la France. Dans la France il te décrit une province.
Dans la province,
il te décrit une vallée. Dans la vallée, oui. Il te décrit un château. Dans le château, il te décrit une chambre. D'abord, dans le château, il te décrit un escalier. Dans l'escalier arrive à un palier. Sur le palier, il y a des portes. Il te décrit des portes. Puis après, il te décrit une chambre. Puis on rentre dans la chambre et le roman est fini.
Ouais.
C'est généralement à ce moment-là que le roman de Stendhal commence.
Oui, enfin, vous n'êtes pas un petit peu injuste avec...
Je suis parfaitement injuste avec les deux et grossièrement injuste avec Balzac. Mais il faut être injuste quand on est passionné.
Parce que quand même, dans Eugénie Grandet, il se passe quelque chose.
Oui, mais bien sûr, mais dans la Duchesse de Langeais aussi. Dans la Duchesse de Langeais et dans tout le reste, et dans le Père Goriot et dans la Cousine Bette.
Et la Grandeur et Misère des Courtisanes.
Mais il y a... Et dans la femme de 30 ans, et dans la rabouilleuse, et dans tout, il se passe quelque chose. Je te dis, je relis Balzac toutes les années en me disant, mon Dieu, que c'est mauvais.
Mais alors, est-ce que le sentiment que vous avez vis-à-vis de Balzac n'est pas un tout petit peu influencé par votre amour de Stendhal?
Certainement.
Qui est un homme tout à l'opposé de...
Certainement si. Il y a dans l'économie de moyenne de Stendhal, certainement, que j'aime d'une façon prodigieuse, certainement quelque chose qui me fait être réticent devant les emberlificotages du style de Balzac. Il y a des moments où tu te demandes si c'est un écrivain véritable ou si c'est un élève de seconde qui est dernier de sa classe et qui écrit ça. C'est lourd, c'est pâteux, il y a plein d'images qui sont des images absurdes et d'un baroque invraisemblable. Par conséquent, ça c'est ça qui me gêne.
Il y a du mauvais goût.
Il y a un mauvais goût abominable, qui n'est jamais dans Stendhal.
Seulement, il y a aussi...
Alors que Stendhal était un homme de mauvais goût.
Oui, mais ça
dit que Balzac n'était pas ce noble de mauvais goût.
Bonjour Christophe Prado.
Bonjour.
Alors là, vous êtes quand même à la maison. Hein. C'est Giono qui parle de Balzac, la réunion de deux de vos auteurs favoris.
Oui. Et on a eu une magnifique démonstration de l'art de la mauvaise foi de Giono, qui effectivement régulièrement a fait des grandes déclarations enflammées pour jouer Balzac contre Stendhal. Et en fait, quand on a quand on lit son journal, on s'aperçoit que régulièrement, il s'enthousiasme en fait lorsqu'il relit tel ou tel ouvrage. Notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, il lit avec délectation les Chouans. Il parle de la magnifique impulsion d'un livre magnétique, enfin, et qui est un livre dans lequel il retrouve quelque chose d'actuel. Il lit en fait la situation de la France de 1943 à travers les Chouans. Et on peut même trouver en fait chez Giono de temps en temps des réminiscences vraiment très fortes hein, de Balzac. Par exemple, il y a un personnage qui apparaît à deux reprises dans son œuvre. On ne sait pas très bien si c'est un retour de personnage ou si c'est deux personnages qui portent le même nom. Clé des cœurs qui apparaît dans De Cavaliers de l'orage et puis dans Edmonde. Qui visiblement est inspiré, enfin en tout cas se souvient d'un personnage des Chouans, qui est un sergent d'une demi-brigade. Et c'est un terme, demi-brigade, que Giono aime beaucoup, puisqu'il va en faire le titre d'un de ses livres, Les récits de la demi-brigade. Et donc en fait, Balzac est présent. Mais évidemment, il est constamment occulté par l'affirmation de la volonté de se situer dans la suite de Stendhal.
Alors ce que dit cette archive, et du coup ce qu'on comprend aussi en creux de ce que vous dites, Christophe Prado, cette idée qu'au fond Giono, bon, il critique Balzac, mais en fait il aime Balzac, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut se positionner par rapport à Balzac.
Oui, c'est-à-dire que c'est une question d'héritage. Et donc, on assume ou pas l'héritage, on le détourne, on l'assume sous bénéfice d'inventaire. Du simple fait que Giono a adopté une technique qui est associée à Balzac, c'est-à-dire le retour des personnages, de toute façon, il s'inscrit dans la continuité de Balzac. Mais si Stendhal, en fait, le séduit tant et s'il a envie de se situer dans cette lignée stendhalienne plutôt que dans la lignée balzacienne, c'est sans doute que, par cette situation stendhalienne qui est celle de se sentir anachronique. Stendhal est quelqu'un qui accède à la scène littéraire en même temps que Balzac, au début des années 1830.
Bien qu'il soit un peu plus âgé.
Mais il est plus âgé, il a 16 ans de plus. Il a déjà vécu une vie de haut fonctionnaire, de fonctionnaire de l'Empire. Et il a l'impression d'arriver trop tard ou d'être déplacé dans son époque et d'écrire en fait une œuvre qui ne peut pas être lue par ses contemporains. Ce que de fait elle n'a pas été, puisqu'elle n'a guère retenu l'admiration que de quelques lecteurs privilégiés, dont Balzac justement, qui a écrit un grand texte sur la Chartreuse de Parme. Et il disait écrire pour les lecteurs de 1880 ou de 1920. Et de fait, il s'est avéré que cette prédiction d'une lecture différée s'est réalisée. Et lorsque Giono va revendiquer de façon si insistante la filiation stendhalienne, c'est donc essentiellement dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, à un moment où il a l'impression de ne plus appartenir à son époque. Il a été très marqué par la guerre, où il a été... Ses engagements pacifistes ont fait qu'il a été emprisonné à deux reprises, qu'il a été stigmatisé par la guerre, et il a envie en fait de se situer dans une autre logique que la logique qui est celle de Balzac par excellence, c'est-à-dire d'embrasser son temps, d'embrasser l'époque. Et donc il choisit d'autres valeurs que celles qui sont associées au roman balzacien, c'est-à-dire la réussite sociale, c'est le bonheur et l'amour, qui sont des moteurs potentiellement antisociaux.
Donc c'est ça qui va faire la grande différence dans l'héritage de ceux qui se revendiquent comme des Stendhaliens et de ceux qui se revendiquent comme des Balzaciens, c'est le rapport à l'époque, Christophe Prado, ou est-ce qu'il y a d'autres...
Il y a un très grand nombre de facteurs, mais c'est un des facteurs possibles en tout cas. Il y a aussi une forme de, disons, d'esprit aristocratique hein, qui est associé à Stendhal. C'est-à-dire que Stendhal, c'est l'allusion.
C'est plus chic alors d'être stendhalien.
C'est plus chic, oui. C'est une tournure d'esprit qui favorise plutôt que ce que décrivait Giono dans l'archive que vous avez diffusée. Plutôt que de l'explicitation, c'est l'allusif. C'est tout ce qui va vite, c'est la rapidité. Et Et il y a un moment dans sa carrière où Giono a eu envie de cela, ce qui n'est pas du tout le cas avant la Première Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, où il est dans une autre logique, où en fait les figures qu'il revendique, c'est Virgile et Homère. C'est tout à fait autre chose.
En tout cas, ils se sont rencontrés, hein, Balzac et Stendhal. Vous disiez que Balzac admirait Stendhal. Il met même en scène Stendhal dans Les Contes bruns et il lui rend un hommage dans La Muse du département. Donc entre eux, comment ça se passait et comment est-ce qu'ils se jugeaient ou se regardaient ?
Donc Balzac admirait Stendhal. C'est l'un des grands textes sur la Châtreuse de Parme. C'est Balzac qui l'a écrit, c'est un texte absolument gigantesque. On n'est pas tout à fait certain que l'admiration soit aussi réciproque, c'est-à-dire que Stendhal admire autant Balzac que Balzac pouvait admirer Stendhal. Mais ce qui est certain, c'est que Stendhal a réfléchi aux remarques que Balzac a pu lui faire et il a parce que Balzac admirait la Chartreuse, mais avec des réticences qu'il a exprimées. Et Stendhal, en fait, regardait Balzac également comme un outsider par rapport à celui qui est au centre de la scène. C'est-à-dire que Balzac avait une forme d'autorité que Stendhal connaissait sans la reconnaître d'une certaine façon.
D'une part, il irritait les critiques par sa faconde et par sa vantardise. D'autre part, un homme comme Hugo s'imposait aux critiques par la noblesse de sa vie, par la beauté de son visage, par la femme et les enfants qui l'entouraient. Tandis que le pauvre Balzac, d'abord physiquement, il était un peu ridicule, il se comparait lui-même à l'as de pique, c'était un très gros ventre sur des toutes petites jambes, habillé d'une manière un peu ridicule. Et puis, ayant une sorte de faconde de commis voyageur, il y a de l'illustre Gaudissart dans Balzac lui-même, les critiques ne savaient pas voir sous cet extérieur un peu étonnant, le profond homme de lettres qui se cachait. Et un homme comme Sainte-Beuve, par exemple, qui était un délicat, méprisant, ne pouvait pas et ne devait pas prendre Balzac au sérieux. Il a commencé à le prendre au sérieux quand il a été mort.
Alors, nouvelle comparaison possible, nouvelle comparaison entre les grands hommes du 19e, Balzac, Hugo. Plutôt à l'avantage de Hugo, Christophe Prado.
Plutôt à l'avantage de Hugo, en quel sens
Il est considéré comme le grand homme, le grand artiste, oui. Celui qui est respectable, alors que Balzac, au fond, n'est
oui, parce
pas
que,
très respectable.
D'abord, Hugo, c'est un écrivain universel. C'est quelqu'un qui a fait œuvre dans tous les genres, et dans le genre qui demeure le genre noble par excellence, c'est-à-dire la poésie, mais également dans le genre qui donne la grande notoriété, c'est-à-dire le théâtre. Alors que Balzac, c'est l'homme d'un genre qui est un genre prolétaire, qui est un genre qui est en voie d'affirmation, que Balzac et Stendhal vont contribuer à transformer en genre hégémonique, mais on n'en est qu'au début de l'histoire, notamment en affirmant que le roman se devait être ce que l'histoire ne sait pas faire, c'est-à-dire écrire l'histoire du présent. C'est-à-dire que le roman va devenir un genre noble grâce à cette ambition. Mais Hugo admirait beaucoup Balzac. C'est Hugo qui a été chargé de prononcer le discours d'hommage aux obsèques de Balzac. Et c'est un discours très beau en ce qu'il affirme ce que l'unité de l'œuvre et la grandeur de l'œuvre perçue comme un ensemble. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a invité à prendre au sérieux l'ambition balzacienne d'écrire un monument unique, c'est-à-dire de prendre au sérieux la comédie humaine. Ce que Sainte-Beuve, par exemple, refusé à Balzac, disant qu'il y avait quelques œuvres intéressantes comme Eugénie Grandet et que la comédie humaine, sinon, c'était un fatras. Oui. Et donc, alors que Hugo affirme ce qui va être le mot d'ordre de tous les Balzaciens, au sens de tous ceux qui admirent Balzac, tous les lecteurs de Balzac, leur mot d'ordre, ça va être « il faut tout lire ».
C'est-à-dire alors ça ne va pas être le seul à dire ça, Gilles le dira, on en parlera tout à l'heure. Toujours est-il que les Illusions perdues sont dédicacées à Victor Hugo. Est-ce que Victor Hugo a pu apprendre quelque chose ou prendre quelque chose de l'univers balzacien selon vous?
Probablement, c'est-à-dire que dans les... Lorsque Hugo s'installe dans le roman et dans le roman dans une forme feuilletonnesque du roman avec Les Misérables, il se mesure à des écrivains comme Eugène Sue, mais aussi à Balzac et la figure héroïque du forçat. Jean Valjean doit quelque chose à Vautrin, de toute évidence. Même si chez Hugo, c'est des univers qui sont très différents, une esthétique différente, mais en tout cas, il y a comme ça des. Quand il s'installe dans le monde romanesque, évidemment, il a derrière lui, en lui, des souvenirs de lecture balzacienne, c'est sûr.
Mais alors, si on vous suit bien, à chaque fois qu'il y a feuilleton, à chaque fois qu'il y a retour des personnages d'une œuvre à l'autre, on est forcément dans quelque chose de balzacien. Est-ce qu'on peut réellement dire ça ? Est-ce que ce n'est pas faire un abus?
Ah non, à chaque fois qu'il y a du feuilleton, on n'est pas forcément dans le sillage balzacien.
Non, mais à chaque fois qu'il y a du cycle.
Voilà, à chaque fois qu'il y a du cycle, il me semble que c'est un.
C'est obligé, ça vous semble évident.
Ça me semble évident. Après, les écrivains peuvent faire un travail de déni. Mais de toute façon, ils sont obligés de se situer par rapport à cette œuvre fondatrice. Et il me semble que ils sont dans l'ombre portée de Balzac, forcément. I am forever searching high and low, but why does everybody tell me no? Neptune of the seas, an answer for me, please. The lily of the valley doesn't grow. I lie in wait with open eyes. I carry on through stormy skies. I follow every course. My kingdom for a horse. But each time I. Cast me from your spell. Let me go. Messenger from seven seas has flown. To tell the king of Rhyme he's lost his throne. Wars will never cease. Is the time enough for peace? The lily of the valley doesn't grow. The Lily of the Valley, hein, une référence au Lys dans la vallée, évidemment, de Balzac. Nous sommes toujours avec Christophe Prado dans la compagnie des auteurs pour parler de l'héritage balzacien au 19e et dans la première moitié du 20e siècle. Et cet héritage balzacien, c'est presque une évidence de le chercher aussi, Christophe Prado, du côté d'Émile Zola. Oui, bien sûr. Dans les dossiers préparatoires des Rougon-Macquart qu'on connaît depuis longtemps maintenant, qui sont publiés, insistent régulièrement sur un positionnement par rapport à Balzac. On peut résumer ainsi, refaire Balzac, mais en mieux.
Et faire en plus précis, c'est ça, mais en mieux ?
Oui, en plus méthodique, refaire Balzac avec aussi les acquis de la science, de la culture qui sont de la culture qui est celle de la fin du 19e siècle. Et en fait, avec Zola apparaît une ambition qui va traverser en fait toute la fin du 19e siècle et puis la première moitié du 20e, c'est de faire pour son époque ce que Balzac a pu faire pour la sienne, c'est-à-dire de faire la comédie humaine du Second Empire pour Zola, ou faire la comédie humaine de la Troisième République pour des écrivains comme Proust ou comme Jules Romain.
Donc Zola, c'est le Napoléon III des lettres.
Ça, c'est une formule un peu malveillante que l'on doit à Albert Thibaudet, qui est l'un des grands critiques des années 20 et 30, le chroniqueur de la NRF, et qui, effectivement, comparant la comédie humaine et le Rougon-Macquart, reprend une assimilation assez fréquente qui veut voir dans Balzac le Napoléon des lettres. Et en fait, Zola ne serait que le Napoléon III des lettres.
Le Napoléon, donc le petit. Un autre écrivain cyclique, c'est évidemment Proust. En revanche, on ne pense pas tout de suite à Proust quand on lit du Balzac, et notamment sur les questions stylistiques, on a l'impression qu'ils sont tous les deux à l'opposé l'un de l'autre. Et pourtant, vous avez tendance à voir chez Proust une postérité de Balzac.
qui est revendiqué par Proust lui-même. C'est-à-dire que Proust a peuplé son livre de Balzacien, au sens de liseur de Balzac. Le baron de Charlus, c'est un grand Balzacien. Il est souvent question de Balzac dans l'œuvre. Et on peut considérer, enfin, en tout cas c'est très approximatif, mais pour aller vite, que Proust a essayé de tenir ensemble l'ambition monumentale balzacienne et la perfection stylistique de Flaubert.
Alors, à la recherche du temps perdu, s'est imposé comme une histoire de la belle époque, comme l'analyse la plus profonde que la littérature nous ait donnée de la société française au tournant du 19e et 20e siècle, à cette nuance près que Balzac a fait pour la durée historique, un travail que Proust fera pour la durée psychologique. Et c'est peut-être là l'immense quand même différence.
Bien sûr.
Et qui les rapproche en même temps.
Oui. Les différences sont gigantesques, ça va de soi. Mais disons que le travail historique proustien, il se traduit par exemple dans la capacité de Proust à rendre manifeste le changement de culture, les modifications de la culture, comment une culture se réinvente, se reconfigure, c'est-à-dire comment l'imaginaire collectif change. Et entre les premiers volumes de La Recherche et les derniers, on voit bien que le monde a changé et que la façon dont les hommes et les femmes habitent le monde n'est plus la même. Et donc, en fait, Proust intériorise le travail balzacien. C'est un travail qui se fait évidemment à différents niveaux de réalité. Mais, en tout cas, mais la démarche, à mon sens, est néanmoins sensiblement analogue.
Je crois que Balzac est merveilleusement accordé à notre temps. Qu'est-ce que c'était que l'époque de Balzac ? C'était une époque où les régimes changeaient avec une grande rapidité. Il a connu l'Empire, la Restauration, la Révolution de Juillet, la Révolution de 48. C'est une époque qui comportait pour les personnages des changements de situation extrêmement rapides, saisissants et dramatiques. Or, les critiques de la fin du 19e siècle, par exemple, n'avaient jamais vu cela. Pour un Faguet, pour un Jules Lemaître, Balzac, c'était un homme qui n'écrivait pas très bien et dont les situations étaient exagérées et invraisemblables. À nos yeux, elles ne sont pas invraisemblables parce que nous les avons vues, nous avons vu la même chose. En outre, beaucoup des idées de Balzac, qui étonnaient ses contemporains et qui étonnaient encore les gens de 1900, ne nous étonnent plus parce qu'elles sont vraies. Balzac, dans La Recherche de l'Absolu, nous peint un savant un peu fou qui cherche l'unité de la matière et qui finit par la trouver, eh bien, nous avons des chimistes qui ont cherché l'unité de la matière, qui croient et qui ont raison d'y croire. En somme, on peut dire que Balzac a tout prévu de notre temps, notre chimie, notre grand commerce. Et la phrase de Hugo que vous citiez en commençant, le plus grand parmi les plus grands, eh bien, nous pouvons, 100 ans après Hugo, la redire.
Alors, il étonnait ses contemporains, nous explique André Mauroy, parce que finalement, il était presque trop en avance. Et il va comme ça, pendant l'entre-deux-guerres notamment, coller peut-être davantage qu'encore à son époque avec, au fond, ce qui faisait l'esprit du temps et l'esprit de l'entre-deux-guerres, et même encore après, Christophe Prado.
Oui, c'est une idée qui apparaît assez vite, en fait, dès le Second Empire. Les critiques du Second Empire font remarquer que, somme toute, le monde dans lequel ils vivent est plus balzacien que le monde de la monarchie de Juillet. Je ne sais pas si c'est
si
exact,
c'est vrai,
parce
oui.
qu'il y a quand même une grande pertinence dans l'analyse de la société de la monarchie de Juillet dans les œuvres de Balzac, mais c'est expliqué ainsi par les critiques. Ce sont les lecteurs de Balzac qui ont fait le monde du Second Empire. Et donc, en fait, ils se comportent en imitant les personnages de Balzac. Quelque chose qui a été magnifiquement décrit dans un grand article de Ossip Mandelstam, le poète russe, en 1922. C'est un article qui s'appelle « La fin du roman », dans lequel il affirme que le monde balzacien-stendhalien, le monde du roman, le monde dans lequel l'éducation des masses s'est faite par le roman, est en train de finir. Parce qu'on arrive dans un monde où l'individu est remplacé par le nombre, par le grand nombre, par la masse, justement. Et il dit, voilà, nous nous sommes mis pendant un siècle à l'école de Balzac, et donc nous avons vécu notre vie, ou anticipé notre vie, rêvé notre vie, comme à l'image des personnages balzaciens, et aussi le monde est devenu balzacien.
Alors, il faudrait citer dans cette période de l'entre-deux-guerres un certain nombre d'écrivains cycliques, donc Martin Dugard, Duhamel, Romain Rolland, Jules Romain, mais peut-être que Martin Dugard, au fond, n'était pas si balzacien que cela, ou en tout cas, il ne se revendiquait pas comme tel, Christophe Prado.
Non, certes pas.
Et pourtant, les Thibault, oui. Alors on a l'impression que c'est justement un archétype de roman cyclique.
C'est ça. Mais donc, il y a une sorte de décalage entre la représentation que les lecteurs se font de ces grandes œuvres qu'ils perçoivent comme balzaciennes, alors que les auteurs de ces, en tout cas pour Martin Dugard, pour Duhamel, par exemple, Duhamel revendique l'héritage balzacien, Jules Romain aussi avec plus de nuances, mais Martin Dugard pas du tout, il se dit dans l'impossibilité de lire Balzac, alors que Gide, qui est une des grandes amitiés littéraires de Martin Dugard, qui, lui, étant balzacien, absolument revendiqué.
Lui, il dit, il faut lire tout Balzac.
Il faut lire tout Balzac. Alors que, apparemment, Martin Dugard n'a jamais fréquenté Balzac, alors que Giono le fréquentait, lui, tout en disant qu'il n'aimait pas. Est-ce que Martin Dugard n'a jamais réussi à le lire?
Il était stendhalien, peut-être, trop.
Non, il se disait tolstoïen.
Ah bon, bah alors voilà,
c'est le modèle de Tolstoï, en fait.
Avançons dans le temps et changeons de médium.
Vous êtes étudiant ? Bon, enfin, peu importe. Oui, vous me dites qui sont les 13 dans l'œuvre de Balzac. J'espère que vous avez lu l'histoire des 13. Oui, c'est ça. Mais bon, donc vous savez que les 13 sont les héros de trois récits. Ce ne sont pas exactement des romans, enfin, c'est plus court. Trois nouvelles de Balzac. Donc, Ferragus, la duchesse de Langeais et la fille aux yeux d'or. Et vous savez aussi que ces 13, finalement, interviennent fort peu dans ses œuvres. Enfin, pour moi, d'ailleurs, le mérite de ces 3 œuvres n'est peut-être pas tellement dans les 13. J'aime beaucoup dans Balzac le complot, enfin, la conspiration dans Balzac, les sociétés secrètes, occultes, tout ça. C'est pour moi une chose, c'est le nœud de l'œuvre balzacienne. C'est peut-être la chose que j'admire le plus chez lui. Mais précisément, ce côté de complot, ce côté d'organisation, on ne trouve pas, paradoxalement, dans l'histoire des 13. On ne voit que des interventions furtives et passagères. Enfin, voilà du moins mon opinion.
Et dans la postérité de Balzac, on en arrive donc au cinéma, à la Nouvelle Vague et à Jacques Rivette avec cet extrait de Out One dans lequel le personnage de Colin, joué par Jean-Pierre Léaud, va voir un professeur de littérature pour savoir si le groupe des 13, donc inventé par Balzac, existe toujours.
Voilà, et ce professeur de littérature, c'est Romer, vous avez sans doute reconnu sa voix. En fait, Romer a écrit un texte qui est assez peu connu. C'est une préface à La Rabouilleuse qui a été publiée dans une collection défunte des éditions POL qui s'appelait La Collection, dans laquelle il affirme que les cinéastes de la Nouvelle Vague se sont vécus comme les 13. Ils se sont rêvés en groupe, au culte, comme ça, les 13, et en fait que chacun avait en commun cette admiration pour Balzac, qui se traduit en clin d'œil innombrable dans les films. Vous vous souvenez sans doute que Jean-Pierre Léaud, dans Les 400 coups, a édifié un hôtel à Balzac. Ou dans Pierrot le Fou, lorsque Belmondo demande aux demoiselles du téléphone de parler à Balzac, je ne sais plus combien, l'un de ses numéros dont l'indicatif était Balzac, il s'étonne qu'elle ne sache pas qui est Balzac, connaissait pas Balzac et César Birotteau. Et c'est ce passage que Pierre Michon, lorsqu'il écrira ce texte magnifique consacré à Balzac, citera en ouverture de son article.
Une transition vers la partie suivante. Après la chronique, oui.
Et donc, ce qui est amusant, c'est que ces cinéastes qui, dans les années 50-60, vont révolutionner le cinéma, partagent une culture commune, une culture balzacienne. Ils connaissent vraiment très, très bien. Alors même que dans le roman d'avant-garde, on va se désolidariser de cet héritage, en tout cas. Donc là, il y a une coexistence intéressante entre une admiration... une admiration très forte à l'égard de Balzac et puis un rejet, et qui sont exactement contemporains dans le cinéma et puis la littérature.
Qu'est-ce que ça nous dit de la Nouvelle Vague, selon vous, cette admiration pour Balzac ? Et aussi, qu'est-ce que ça nous dit du succès, finalement, de la Nouvelle Vague ?
Alors, je pense que il cherche dans Balzac d'abord, enfin, il trouve en Balzac une sorte d'énergie. Hein, c'est vraiment une relation énergétique. mais également sans doute ce rapport dynamique au présent, enfin cette volonté d'embrasser le présent, hein, d'être dans le présent. La dimension documentaire de la Nouvelle Vague, par exemple, elle est en partie balzacienne, hein, c'est-à-dire que cette cela se traduit par cette organisation qui n'est pas systématique, certes, mais qui est quand même assez importante, une organisation des films en réseau. Le fait, par exemple, de faire des douanelles, de faire des contes moraux, des comédies et proverbes, ou chez Rivette, de cette prolifération de d'Out One. Hein, c'est un extrait d'Out One que nous avons entendu. Donc il y a cette volonté de faire une œuvre, de composer une œuvre, de faire en sorte que les films isolés puissent être intégrés dans un ensemble cohérent.
Donc être balzacien, c'est toujours être dans le présent et dans la modernité aussi, et dans l'innovation, enfin en tout cas le regard de ce qui se fait aujourd'hui, ici et maintenant.
Oui, il faut embrasser le présent, c'est sûr.
Merci Christophe Prado.
Merci à vous.
Et à 15h30 sur France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence habituelle en compagnie des revues. Nous avons le plaisir d'être rejoints aujourd'hui par Julien Bisson, rédacteur en chef du magazine Lire. Bonjour Julien.
Bonjour Mathieu.
Alors vous êtes venu pour nous parler du dossier à la une de Lire, en kiosque ce mois-ci, intitulé « Pourquoi lire des livres ?» C'est un titre un peu à double sens, j'ai l'impression.
Oui Mathieu, un titre à double sens, puisque vous pouvez bien sûr écrire des livres en un seul ou en deux mots. Mais dans les deux cas, dès lors que vous demandez pourquoi lire des livres, vous vous interrogez sur le rôle de la lecture au sein de notre époque. Car au fond, à quoi sert-il de lire quand les bombes explosent à Paris et à Beyrouth ou quand les balles pleuvent dans les cafés du 10e arrondissement et sur les hôtels de Ouagadougou? C'est cette question que nous avons choisi d'explorer dans les pages de ce numéro en interrogeant d'abord des écrivains comme Orhan Pamuk, Alaa El Aswany, Léonore Amiano ou le poète Adonis, tous originaires de pays pareillement frappés par le terrorisme et qui proposent dans leurs œuvres des clés pour résister à l'oppression. Mais ils ne sont pas les seuls à mener le combat.
Alors qui sont ces autres combattants de la lecture dont vous parlez dans le dossier de votre magazine?
Vous les connaissez tous, ce sont des voisins, des frères, des sœurs, des collègues, des inconnus, bref, des hommes et des femmes de lettres qui militent pour la lecture loin des strass et des projecteurs. Ils sont professeurs en ZEP, libraires itinérants, éditeurs solidaires, bibliothécaires, en prison ou en milieu hospitalier. Autant de héros du quotidien que nous sommes allés rencontrer et à qui nous avons voulu rendre hommage dans ce numéro. Pourquoi? Parce que loin des grandes institutions culturelles, parfois boudées par le public, ce sont eux qui défendent les livres là où il est besoin d'agir, là où le livre, souvent trop absent, pourrait aider à restaurer du lien et de la beauté. C'est, par exemple, vrai dans le milieu scolaire, où, comme nous l'explique Delphine Momeux, professeure à Garges-lès-Gonesse, la première question des élèves sur un livre concerne toujours le nombre de pages qu'il comporte. Le défi est d'arracher le livre au domaine purement scolaire, explique-t-elle, concédant que le livre peut souvent paraître intimidant, avant d'ajouter « C'est en ressentant le plaisir qu'on éprouve à leur lire de la littérature qu'ils en viennent à s'y intéresser. »
Bon, ça c'est quand même une question qu'on a tous posée à nos professeurs, hein, le nombre de pages dans un livre. Mais très prosaïquement, Julien, à quoi peuvent servir selon vous les livres dans une société aujourd'hui où la violence semble plus palpable qu'auparavant?
En tout cas, il ne faut pas se montrer naïf. Aucun livre ne peut arrêter les balles ou protéger de la déflagration d'une bombe. Mais il ne faut pas non plus être cynique au point de nier tout pouvoir à la littérature. Au moment où rôde la division et la haine de l'autre, il est grand temps de se rappeler combien la lecture délivre de l'ignorance, délivre de la solitude, délivre du mal-être qui nous saisit parfois face à la complexité du monde. L'essayiste Hélène Merlin-Cajman appelle cela le caractère transitionnel de la littérature dans son essai « Lire dans la gueule du glou », où elle précise que la littérature, je cite, « offre un lieu imaginaire et symbolique pour apprivoiser en commun nos points de souffrance extrêmes et les transformer en plaisir ». Cette proposition, elle est formulée encore autrement par la romancière et professeure de français Cécile Ladjali dans nos pages. Auteur d'un nouveau roman suivant le destin d'un jeune illettré, celle-ci nous rappelle cette vérité simple. Les livres, les histoires, les images sont la reformulation symbolique du réel et elles nous aident à mieux appréhender ce dernier. Lorsqu'on comprend, on cesse d'avoir peur. C'est cela. Les livres nous aident à ne plus avoir peur.
Alors, tout le monde serait donc favorable, selon vous, aux livres et à la lecture?
Non, bien sûr que non. Certains voient justement dans la lecture un péril. Une partie de notre dossier évoque la méfiance que les totalitarismes, laïcs ou religieux, ont toujours entretenu envers les livres. Pour eux, le livre n'est pas un mal en soi à condition qu'il soit unique, qu'il s'appelle Bible, Coran ou Petit Livre Rouge. C'est la pluralité des livres qui effraie les tyrans, qui n'ont pas attendu le Troisième Reich pour pratiquer l'autodafé. Ainsi, cette petite histoire colportée au sujet du calife Omar, par exemple, à qui on a demandé quoi faire des livres de la bibliothèque d'Alexandrie après que les musulmans se soient emparés de la ville en 640, Celui-ci aurait fait alors cette réponse éloquente. Quant aux livres dont vous parlez, si ce qu'ils contiennent est conforme au Coran, ils sont inutiles. Si au contraire ce qu'ils renferment est opposé aux livres de Dieu, ils sont nuisibles. Donnez donc l'ordre de les détruire. Conclusion, ils furent brûlés.
Alors aux différents peuples du livre, il faudrait donc substituer un peuple unique, le peuple unique des livres, c'est ça?
Oui, c'est ce que soutient l'écrivain égyptien Alaa el-Aswani, vous savez, l'auteur de l'immeuble Yacoubian, dans un texte qu'il a écrit pour lire. Où il écrit ceci. Pour un terroriste islamiste, tous les occidentaux ont à répondre ce qui se passe en Irak, ou bien tous les juifs, des actes d'un extrémiste israélien. Même chose pour un raciste en Occident. Il pense que tous les musulmans sont responsables de ce que fait Daesh. La littérature, elle, apprend à voir le monde au niveau individuel. Dans un roman, un personnage finit par ne plus paraître comme juif, musulman ou autre. Il se transforme en être humain universel. Ces modèles d'Alaa el-Hosseini, nous les avons fait nôtres. Car les livres ont cela de beau qu'ils n'ont aucune nationalité dont on pourrait les déchoir. Ils passent les frontières, ils franchissent les mers, sans menacer quiconque, si ce n'est les ennemis de la pensée. Alors, si état d'urgence il y a, c'est certainement l'urgence de défendre la lecture.
Merci beaucoup Julien Bisson, on vous retrouvera régulièrement à ce micro, et dans l'intervalle bien entendu dans les colonnes de votre magazine, le magazine Lire. Les héritiers littéraires de Balzac, c'est le sujet de la Compagnie des auteurs aujourd'hui avec, dans cette seconde partie, la professeure des universités Aline Murat-Brunel, auteure de Balzac réinventé chez Pierre Michon, Jean Echenoz et Régis Geoffrey, un article de la revue L'année balzacienne 2015. Alors l'héritage de Balzac, il est certes immense, mais il est aussi chahuté, mouvementé, contesté par des écrivains comme, allez au hasard, Alain Robbe-Grillet, que je vous propose d'écouter faire la critique du type de genre romanesque qu'apportait justement Honoré de Balzac.
Je constate qu'il y a des formes littéraires qui ont été sacralisées comme si elles étaient éternelles. Or, nous savons très bien que Balzac... que Diderot n'écrivait pas comme Balzac et que Flaubert n'écrivait plus comme Balzac. Donc ça a été un bref moment de glaciation de l'écriture qui a vu son triomphe, en somme, entre deux révolutions. La révolution de 1830, qui est l'accès au pouvoir de la bourgeoisie, et la révolution de 48, qui est celle qui, au contraire, venant du peuple alors, met en question les valeurs de la bourgeoisie. Mais entre les deux, il y a eu une tranquillité d'esprit du romancier. Jamais Balzac ne se demande pourquoi et comment il a le droit de raconter. C'est-à-dire, au nom de quoi j'écris. Il ne se demande pas au nom de quoi il écrit. Il écrit avec naturel, comme les pommiers portent des pommes, comme ça. Il écrit sans arrêt, et les pommes tombent au pied de l'arbre, et tout va très bien, etc. C'est bizarre, puisqu'il a écrit justement ces romans étranges, que moi je lisais volontiers, mais dont on ne parlait jamais dans les lycées et collèges. C'est dommage qu'il n'ait pas eu d'inquiétude métaphysique. On se demandait pourquoi est-ce que j'écris, et au nom de quoi est-ce que j'ai le droit d'écrire. Donc, pour un sociologue type Bourdieu, il y aurait là un parallélisme complet entre la bonne conscience de l'écrivain qui écrit sans se poser de questions sur le fait d'écrire. Il se pose des questions sur des tas de choses. Balzac se renseignait très longuement sur les métiers, puisqu'il voulait faire une comédie humaine exhaustive, tous les métiers possibles, tous les âges de la société, tous les caractères, et toutes les situations sociales, etc. etc. Mais... jamais sûr pour comment j'écris, pourquoi j'écris et au nom de quoi est-ce que j'ai le droit d'écrire comme ça.
Bonjour Aline Murat-Brunel.
Bonjour.
Alors voilà quelqu'un, Alain Robbe-Grillet, dont on ne peut pas dire qu'il se revendiquait de Balzac, pour le moins.
Oui, effectivement, il ne fait pas partie de cet effet Balzac dont je voudrais parler. Mais on pourrait peut-être lui répondre en faisant un anachronisme très important, lui disant avec cette phrase de Régis Jauffray que l'écriture, c'était le seul absolu qui fût à sa portée. Et je crois que c'est vraiment la réponse qu'on pourrait apporter à Rogrier sur le pourquoi écrivait-il. Puis de plus, si Rogrier, ainsi que Nathalie Sarraute et les tenants du nouveau roman se sont emportés contre Balzac à divers titres, c'était aussi parce que Balzac est le représentant d'une littérature dite dépassée, d'un roman psychoréaliste dans lequel le personnage, si je reprends le terme de Nathalie Sarraute, est typifié. Donc, fossilisé.
C'est un petit peu la critique que Sartre fera aussi à Mauriac.
Oui.
Cette idée que voilà, les personnages ne sont pas libres chez Mauriac,
alors qu'ils
devraient l'être.
En effet. Mais cela correspond dans les années 50 à un mouvement plus large de rejet du sujet ego et res, hein, de la chronologie dans les romans et d'un souci de la forme. Tout particulier, évidemment, à cette aune, Balzac n'est peut-être pas l'emblème parfait. Je crois vraiment qu'ils se sont un petit peu acharnés. Hein, c'était vraiment la cible. Tout à l'heure, vous parliez d'un Balzac contre Stendhal. Là, c'est un Balzac contre Flaubert. Donc, on joue Flaubert plutôt que Balzac. Bon, je dois dire quand même, pour être honnête, que Claude Simon et Michel Butor, à cette époque, échappent à cette condamnation et à ce soupçon systématique.
Oui, ils sont plus libres à ce sujet au sein du nouveau roman, parce que oui. Claude Simon a dit qu'il avait lu tout Balzac.
Oui, pour pouvoir écrire. Bon, il est plus.
Il n'avait pas aimé, par contre. Il avait dit ça aussi. C'était beaucoup ennuyé.
Mais vous voyez, c'est cela qui est très intéressant, c'est qu'il y a une sorte de revendication qui est toujours paradoxale ou même qui est contradictoire. Moi, je crois, je vais parler de quelque chose qui n'est pas du tout académique, mais je crois que l'homme Balzac, avec son extravagance, sa grossièreté, a beaucoup dérangé les écrivains qui avaient envie de se revendiquer de lui à cause de cette fresque qui est à la fois réaliste et imaginaire et qui, pour tout dire, est géniale. Là, c'est un mot qu'on peut employer à juste titre. Et en même temps, et puis en plus, critiquer Balzac parce qu'il est trop réaliste dans tel ou tel roman, c'est oublier tout un pan de ses études philosophiques. Donc je crois que ce personnage que Delacroix avait honte d'inviter dans les salons, par exemple, hein, alors que c'était son ami, ce personnage a fait un peu ombrage à cette œuvre magistrale que les plus grands écrivains de tous les temps, somme toute, ont eu envie d'admirer, mais qui ont été empêchés. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'essai de Pierre Michon, Trois auteurs, et en particulier l'article qui est consacré à Balzac, parce qu'il nous réconcilie avec l'homme. On voyait avec ce gros homme vaniteux et sentimental, mais bienveillant.
Alors, est-ce que quand même, vous ne souhaiteriez pas réagir sur les propos de Rob Grier quand il dit que Balzac ne réfléchissait pas à son écriture? Parce que ça, c'est quand même un petit peu faux.
Hein. Et ben, par exemple, pour vous répondre et en même temps poursuivre avec Pierre Michon, Pierre Michon montre qu'il ne fallait pas écrire La Bataille, vous savez, cette œuvre non seulement inachevée, mais non écrite, en fait, des scènes militaires, parce que La Bataille, c'était précisément le modus scrivendi de Balzac, c'est son mode d'écrire, et c'est, au fond, la facture de tous ses livres qu'il revendique dans la correspondance avec Madame Anska. Pour ce qui est de La Bataille, en 1833, pardon, il dit qu'il le canon doit gronder au début du roman et se taire à la fin. Et il y a dans toute son activité de journaliste, qui est très importante chez Balzac et très tôt dans sa vie, il y a une réflexion évidemment sur la littérature, le pourquoi écrit-on, etc. Mais c'est aussi typique, si vous voulez, des tenanciers du nouveau roman, où il faut être toujours dans le méta autant que dans le texte lui-même.
Alors si vous nous parlez de Pierre Michon, Aline Murat-Brunel, c'est parce que vous avez précisément consacré cet article à des noms qu'on n'aurait pas forcément tendance à associer à Balzac. On va parler des uns et des autres au fur et à mesure, mais poursuivons sur Pierre Michon. De manière globale,
En quoi Pierre Michon vous semble précisément un héritier direct de Balzac?
Oui, alors, héritier direct, bon, il faudrait nuancer, si vous voulez. Bon, en aucun cas, il s'agit de comparaison, mais je crois qu'il y a un effet Balzac et ce que j'appellerais une sorte d'appropriation, comme si cet écrivain s'était fait... avait fait passer par son étamine, comme disait Montaigne, hein, cette œuvre-là. Et c'est en particulier, bon, c'est pour au moins deux raisons, en particulier dans cet essai sur Balzac qui est débarrassé des entraves universitaires et qui, à l'évidence, montre une admiration sans borne et une très grande connaissance de l'œuvre, hein, de Balzac. Il imagine aussi un repas entre Baudelaire, Nerval et Balzac, qui n'a pas nécessairement eu lieu, et il dit ces deux bienveillances fragiles qui montaient vers le gros homme. Et d'autre part, chez Pierre Michon, il y a aussi un regard sur la province, dans les vies minuscules, comme chez Bergougnou.
Et ce regard sur la province, pour vous, il vient directement de Balzac. C'est au fond Balzac qui nous a appris à regarder la province comme on la regarde aujourd'hui.
Ah, mais c'est plus que ça, c'est Balzac qui a inventé la province française. J'irai jusque-là, c'est-à-dire, bon, vous savez
donc
très
Paris
bien...
Paris et le désert français, c'est la faute de Balzac, en fait.
Oui, mais attention, parce qu'il voit, il voit la province sous un double jour. C'est aussi bien la Touraine et le paradis perdu de l'enfance, donc d'une façon extrêmement positive, que le lieu des vicissitudes, des mesquineries humaines. Hein. Angoulême, Issoudun, ouais. Sancerre, dans la Muse du département, tout cela est emblématique.
Et ça, on le retrouve où alors dans les ultra-contemporains, les écrivains d'aujourd'hui?
Dans les ultra-contemporains, on le retrouve donc dans les vies minuscules, on le retrouve chez Bergougnou, par exemple, hein, dans Miette, ou on le retrouve également chez des écrivains qu'on ne peut peut-être pas revendiquer comme directement balzacien, en tout cas pas consciemment. Chez quelqu'un comme Olivier Adam, dans Des vents contraires, chez Pierre Jourde aussi, pourquoi pas.
Donc dès qu'on parle de la province, on est balzacien?
Non, absolument pas, absolument pas. Non, c'est un certain regard qui est teinté d'une sorte de profondeur et de ce sentiment très mêlé d'amour-haine. Voilà. Et bon, si vous voulez, ce n'est pas le seul critère, hein, qui permette de déceler cet effet Balzac.
Alors, ce qui est drôle quand même, Aline Murat-Brunel, c'est que dans les ultra-contemporains que vous avez étudiés pour y démontrer la postérité de Balzac, eh bien, vous avez choisi pas les plus évidents, vous avez pris en général les héritiers du nouveau roman, c'est-à-dire
oui,
les auteurs des éditions de Minuit, quand même.
Oui.
Alors, parmi les auteurs de Minuit, il y a évidemment l'immense Jean Echenoz, qui, lui, considère qu'il n'est pas balzacien. Mais vous savez qu'il est balzacien.
J'établirai une nuance. Il n'est peut-être pas balzacien, en tout cas, il ne se revendiquera jamais comme tel, mais il est entré en Balzacie, dirais-je. C'est-à-dire qu'il... des influences qui seront inavouées, des affinités électives, mais qui sont inconscientes. Hein, la plupart du temps, il s'agit de réminiscences. Et en particulier, dans ce fameux retour des personnages, qui est quand même un des emblèmes de l'écriture balzacienne, qui est très appuyé chez Echenoz, comme chez d'autres écrivains.
Hein, oui, dans Je m'en vais, il y a des personnages qui sont des personnages d'un an et qu'on retrouve encore dans d'autres romans, c'est ça?
Oui, et dans Un an et dans Je m'en vais, vous avez Félix Ferrer, Victoire et Louis Delahaye. Et il y a aussi beaucoup d'ironie de la part d'Echenoz, on le sait, chez Balzac aussi d'ailleurs, hein, c'est une autre histoire. Il dit Ferrer, c'est aussitôt qu'il ne va pas la perdre de vue. Et évidemment, il ne va pas la perdre de vue parce que dans Je m'en vais, Victoire sera sa compagne plus loin. Et nous, lecteurs non plus, nous ne la perdons pas de vue parce que nous la connaissons depuis un an, en 97, alors que sur le Je m'en vais de 99. Et il y a ainsi cette... ces personnages reparaissants, disait Balzac, hein, et non réapparaissants, cette illumination rétrospective, comme l'appelait Proust, hein, au sujet de cette idée de génie. Mais évidemment, ce n'est pas tout. C'est une sorte d'espace romanesque familier dans lequel, lorsqu'on est balzacien soi-même, on se retrouve en Balzacie. Mais il ne s'agit pas de comparaison, voyez, oui. Stricto sensu.
Même si la différence, c'est que les personnages chez Echnoz, vous dites qu'ils ne deviennent pas pour autant des familiers du lecteur. Il n'y a pas cette proximité qu'on a quand on lit Balzac avec les personnages de Balzac avec Echnoz. Ce n'est pas du tout le même rapport lecteur-personnage.
Oui, c'est vrai. Mais bon, évidemment, ce serait absurde de faire une comparaison, d'autant qu'il s'en défend. Et puis, il y a eu cet héritage du nouveau roman avec une logique de rupture, hein, qui présidait à toutes les œuvres littéraires et artistiques de l'époque. Alors que même si, depuis les années 80, nous sommes davantage dans un schéma du retour au sujet, à la narration, à la lisibilité de l'œuvre, les minimalistes et minimalistes, comme on les appelle parfois, qui ont quand même rejeté quelque peu le formalisme des débuts. C'est le cas d'Echnoz, d'Auster, de Gailly, de Toussaint. Chez Toussaint aussi, d'ailleurs, il y a des retours de personnages. Et garde quand même quelque chose de cela. Alors, donc, cette empathie avec le lecteur, effectivement, ne s'établit pas de cette manière parce qu'il y a la barrière, dirais-je, de l'ironie. Mais vous savez, chez Balzac, il y a aussi une familiarité qui s'établit, mais qui est souvent glacée par l'ironie, précisément. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu Pierre Grassou, hein, et les personnages des Vervelles, qui sont des bourgeois qui se mettent à l'art. On n'a pas d'empathie, ni même avec le personnage principal de Grassou.
Alors autre chose, c'est le roman historique qu'on va retrouver chez Echnoz. Vous y voyez une réinvention du roman historique balzacien, une réinterprétation en tous les cas.
Mais on retrouve effectivement, mais là c'était déjà un petit peu vrai dans un roman que je placerai pas, que je placerai plutôt à la lisière de la Balzacie, La bataille de Patrick Rambaud, et dans le 14 d'Echnoz, c'est, si vous voulez, c'est très simple.
Alors la bataille, c'est parodique hein, quand même, non?
Oui, certes, mais c'est parodique et apocryphe. Mais si vous voulez, dans le retour du roman historique, parler de manière un petit peu schématique, c'est le fait de passer à la fois d'une esthétique du détail avec un certain réalisme à des tableaux qui se déploient et qui donnent une vue d'ensemble. Et je trouve qu'il y a chez Echnoz, dans 14, vraiment cette réussite totale de ce que Balzac faisait aussi entre les fresques et le détail.
Régis Jauffray, en quoi est-il balzacien ?
Alors, Régis Jauffray, bon, là c'est plus facile pour moi comme tâche parce qu'il l'a quand même dit. En présentant ses deux premiers, les deux plus connus de ses ouvrages, Fragments de la vie des gens et Autobiographie, en les présentant à l'éditeur, il a revendiqué la paternité de Balzac. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Régis Jauffray sur une phrase. Cette phrase, c'était « Regardez Balzac, regardez Thomas Bernhard, comme ils ont souvent joué les alambics ou mijoté la misère du monde. Oui. » Donc, si vous voulez, c'est l'aspect réaliste chez Balzac, hyper réaliste et en même temps imaginaire.
Il écrit aussi « Quand Balzac était fatigué, je vivais à sa place et j'étais bien obligé d'écrire ses livres. Je buvais du café toute la nuit, noirci des pages pleines de comtesses, de cochers, d'arrivistes et de jeux de mots dont j'avais honte. »
Voilà, et là on retrouve bien cette ambivalence. Et d'ailleurs, vous ne lisez pas la suite, heureusement, parce qu'il dit à ce moment-là, écrire était avilissant.
Merci Aline Murat.
Bon, enfin, lisez Balzac, c'est le mieux que vous puissiez.
Et à 15h54 sur France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Dernier moment d'une semaine consacrée à l'auteur belge William Cliff, né en 1940, poète remarqué et dérangeant, emblématique d'un retour à la poésie métrique, vers de 14 pieds, sonnet ballade, trouvant sa liberté dans la contrainte, utilisant presque en permanence la versification ou des modes de construction anciens d'inspiration médiévale et renaissance. Jacques Bonafé l'a choisi et l'interprète pour nous.
Bonjour, La Corunna, Poème de William Cliff, c'est un long poème pour terminer cette semaine avec William Cliff. Il y avait près de chez moi un clos peuplé de chiens. Quand leur maître arrivait avec ses mains chargées de viande, ils se précipitaient pour s'emparer de leur pitance. Souvent le maître avait un œil ou une oreille en moins. Jappement, jappement qui n'en finissait pas d'ouvrir par longs couteaux saignants le ciel, la mer, la pluie, les astres. Il y avait dans tout cela comme un air de désastre, comme des morceaux de bateaux qui flottent et vont pourrir. Ça se passait au reculé d'une terre espagnole, la côte se creusait de trous comme un vieux papyrus, le soleil mettait en lambeaux des cumulos, un bus, parfois passé près de la mer dans des bruits de casseroles. C'était en 1975, j'étais au lit, et mon temps s'avançait dans ma 35e année. 10h30, disait l'aiguille de ma montre obstinée, mais je restais au lit, sans croire au jour ou à la nuit. 2. Un mégot à bout filtre, un tensoplaste, un pot à crème en plastique, un chiffon jauni de gazette espagnole, une mamelle indécemment tombante d'un maillot, une fourmi, une espèce de répugnant mille pattes à long bedon et longue antenne et grosse pince au cul, du granit à gros grains qui vous pénètre méchamment la chair des fesses ou des doigts de pied, un chewing-gum, du goudron, des allumettes calcinées. 3. Elle ne voulait pas porter de pantalon pour ne pas divulguer la grosseur de ses fesses. Ne t'en fais pas, ma fille. La bonté de ton corps, la pesanteur de tes seins, de ton postérieur, sont de loin plus propices aux caresses expertes. Tu suis piteusement le groupe des compagnes maigres de cul pantalonnées où tu te crois chez toi. Sois calme, tu verras bientôt un mâle à deux genoux t'ouvrira ton chemin du corps. Et longtemps avant elle à rester bêtement par les chiffons se jalouser, tourner allègre pendant que tu riras en berçant ton enfant. Ô belle grâce aux grands yeux noirs, ne sois pas triste en suivant tes compagnes, même si ta jupe largement flotte au vent, car bientôt le soc du mâle fera fleurir en toi la splendeur de la femme. 4. Vous ai-je demandé, emmerdant océan, de venir me mouiller? Je suis là sur l'estran et je n'ennuie personne et vous venez m'importuner, mais je dois interrompre un instant ce poème car un plus fort ondin venu du monstrueux à queue m'a chassé du rocher où je m'étais juché. Quand c'est pas l'élément, ce sont les gens qui vous emmerdent. Ayant étalé mon blue jean et mon t-shirt asséché sur le sable, un môme indifférent me les vient piétiner et puis c'est un ballon qu'on m'envoie sur le crâne et le respect pour le poète. On n'est plus, je le sais, au temps d'Alfred de Vigny. En est-ce assez pour malmener un homme qui écrit ? 5. On voit ici des rocs de mer couverts d'épaisses et visqueuses chevelures d'algues brunâtres. Ça flotte et se transporte au gré des mouvements du flot. C'est le bétail humain qu'on voit grouiller ici. On ne sait pas ce qu'il y a dessous. C'est nombreux, c'est visqueux, c'est pauvre et ça tient le coup. 6. Toutes ces belles choses qui nous charment les yeux, les vagues de la mer, les corps d'adolescents, ce mica du rocher qui brille sous le soleil, les nuages naviguant entre les toits, choses que Dieu nous donne gratuitement, dureront-elles encore au temps du grand supplice, quand il faudra payer au temps à la justice? Toute cigarette finit au cendrier, toute marée se meurt sur la dent du rocher, tout spectacle s'éteint dans le fracas des strapontins, et même ton souvenir qui s'arme dans cet écrit finira lui aussi dans la chaleur de l'incendie. Amen dico vobis, et si la terre tourne encore, et si la mer encore se meurt sur cette belle plage, ce sera sans la joie de nos beaux yeux qui les regardent, sans l'amour de nos corps qui s'y confondent embrassés.
Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Et c'est Jacques Bonafé qui lisait William Cliff pour clore cette semaine de la Compagnie des auteurs consacrée à Balzac. Merci à Christophe Prado, écrivain et professeur de littérature à l'Université Paris-Sorbonne, ainsi qu'à Aline Murat-Brunel, professeur des universités, auteur de Balzac réinventé chez Pierre Michon, Jean Echenoz et Régis Geoffrey, publié dans l'année balzacienne 2015. C'est au PUF. Cette mission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Bruno Gagnère-Fontanille. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinault et Anne-Vanessa Prévost qui ont préparé cette émission. signale que du 15 au 26 février, dans le feuilleton de France Culture, vous pourrez entendre une adaptation de Petite Misère de La Vie Conjugale. Et puis sachez que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site internet de notre chaîne, en attendant de nous retrouver lundi pour entamer une semaine consacrée à l'américain Herman Melville.